RFI, les 15h temps universel, 16h ici à Paris, 17h en Gagaouzie, c'est dans le sud de la Moldavie.
Charlotte Idrac.
À la une, une visite mouvementée et écourtée du roi Felipe VI près de Valence en Espagne, accueilli par une foule très en colère après les inondations meurtrières de cette semaine, jet de boue, de pierre, il a dû finalement quitter les lieux. Une bataille qui s'annonce serrée selon les observateurs en Moldavie, second tour de la présidentielle entre la sortante pro-européenne et son rival soutenu par les pro-russes. À suivre aussi beaucoup de commentaires aux États-Unis sur un sondage qui concerne l'état de l'Iowa. C'est un fief républicain traditionnellement. Il donne, vous l'entendrez, une tendance inattendue. Et puis, le duel en ce moment en demi-finale du tournoi de tennis de Paris-Bercy. Avantage Alexander Zverev face au Français Hugo Humbert. Oui, cela a frisé l'émeute à Paiporta près de Valence en Espagne, censée être la première étape d'une visite de terrain du roi Felipe VI, de la reine Letizia et du premier ministre Pedro Sanchez. La foule très en colère donc après les inondations qui ont fait au moins 217 tués, c'est le dernier bilan. La foule au cri d'assassin a jeté de la boue sur le cortège. La visite a donc été suspendue. Ces inondations qui ont englouti les rues, les habitations et aussi les parkings souterrains. Reportage à Paiporta, Pauline Glaise.
L'eau que cette habitante pousse avec sa raclette provient du garage souterrain de son immeuble.
On le vide pour le nettoyer et voir dans les caves. Tout sera jeté, mais bon. Jusqu'à présent, on n'avait pas de machine pour nous aider. On a commencé ce matin à enlever l'eau avec une pompe.
L'entrée du garage souterrain de Vicente Cascales a encore des aires de mare stagnantes, barrées par deux voitures à la verticale et partiellement immergées. Un garage où il a failli perdre la vie.
J'ai réussi à sortir de la voiture. Il y a eu une sorte de tsunami qui m'a entraîné. Ma femme a dû s'agripper à la portière. On a été pris dans un tourbillon. J'ai sauté sur le capot pour essayer de la tenir. Grâce à un voisin, on a réussi à avoir la vie sauve.
Mais tous n'ont peut-être pas eu cette chance.
On suspecte que des gens soient restés dans notre garage. C'est pour ça qu'il y a une urgence à pomper l'eau.
Un camion de pompiers s'est garé à proximité de l'entrée nettoyée par Vicente Cascales et ses voisins.
On l'a laissé comme ça, pour que les pompes puissent venir vite et vidanger l'eau.
En prenant des précautions, cette eau stagnante, potentiellement en contact avec des cadavres, présente un risque pour la santé. Pauline Glaise, Paiporta. RFI.
Entre ambition européenne et rapprochement avec la Russie, c'est ce qui se joue en ce moment, en Moldavie, jour de vote pour la présidentielle, le second tour, qui oppose la sortante Maia Sandu, pro-européenne, et l'ancien procureur Alexander Stoyanoglu, soutenu par les pro-russes. Notre envoyé spécial Julien Chavan s'est rendu à Komrat, dans sa région natale, la Gagaouzie, une région autonome et russophone dans le sud donc de la Moldavie, où la population a voté à 95% contre l'Europe lors du référendum il y a deux semaines.
Non, Paraskovia ne veut vraiment pas de l'Europe chez elle.
Quand je suis née, ici c'était l'Union soviétique. Maintenant je vis ici et je veux mourir ici. Je ne l'échangerai contre l'Union soviétique pour rien au monde.
La nostalgie soviétique bat son plein, alimentée par la propagande russe et l'argent du milliardaire exilé Ilan Shor. Beaucoup d'habitants craignent que le rapprochement avec l'Union européenne soit synonyme de guerre, comme Eli, professeur d'anglais.
J'espère que quel que soit le candidat qui l'emporte, il apportera la paix dans le pays. On est au milieu de, disons, deux visions du monde, entre l'Ouest et l'Est.
Pour Rodka, le problème avec l'Europe, c'est la communauté LGBT.
Les gens ont peur du changement. Les gens ne voient que le mauvais côté de l'Europe. Par exemple, cette égalité des droits avec les minorités de genre, je ne sais plus comment ils s'appellent.
L'UE a pourtant payé des routes flambant neuves dans la région, mais la population ne voit rien venir pour leur pouvoir d'achat. Seulement leurs jeunes quittaient le pays pour de meilleurs salaires. Julien Chavan, Komrat, RFI.
Des frappes signalées ce dimanche dans l'est du Liban sur plusieurs localités de la plaine de la Beka, sachant qu'un peu plus tôt l'armée israélienne avait diffusé des ordres d'évacuation dans la région. Un bombardement israélien a aussi visé Saïda, la principale ville du sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé fait état d'au moins 3 morts. C'est une vidéo devenue virale ces dernières heures en Iran. On y voit une jeune femme en sous-vêtements dans la cour de l'université libre de Téhéran. Elle est finalement poussée dans une voiture et emmenée au commissariat. Cette affaire qui intervient un peu plus de 2 ans après la mort de Mahsa Amini. Arrêtée, cette jeune femme, pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire, le port strict du foulard, ce qui avait provoqué de violentes manifestations dans le pays. L'Iran, où des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce dimanche pour célébrer le 45e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'était en 1979. Les États-Unis et ce sondage qui fait beaucoup de bruit à J-2 de l'élection présidentielle. Il concerne l'État de l'Iowa, c'est un fief des républicains traditionnellement. Et là, ce sondage donne 3 points d'avance à la démocrate Kamala Harris, alors qu'en juin dernier, Donald Trump avait 18 points d'avance au même endroit. Alors comment interpréter ce sondage? L'analyse de Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos.
L'Iowa, ça a quand même été dans le passé un swing state, mais c'est vrai que depuis 2016, il semblait quand même plutôt bien arrimé chez les républicains. Après, voilà. Les autres sondages tendent à montrer que Donald Trump est en avance dans cet état. Mais c'est vrai que là, c'est un institut qui est particulièrement réputé, qui dans le passé, en 2016, en 2020, a donné des tendances que les autres instituts ne donnaient pas et qui se sont révélées exactes. Donc c'est un indice quand même intéressant qu'il faut suivre, qu'il faut prendre en compte, même si voilà, c'est pas parole d'évangile.
Ce dernier sondage, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de l'évolution de certaines sections d'électeurs ?
Parce que l'Institut met en avant, c'est notamment un basculement dans la dernière phase de la campagne des femmes, notamment des femmes âgées et des femmes indépendantes, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni au Parti républicain ni au Parti démocrate, vers Kamala Harris, ce qui pourrait montrer que voilà, la radicalité du discours de Donald Trump, même durant la dernière ligne droite de la campagne, elle a eu tendance à susciter du rejet. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour Donald Trump.
Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos, joint par Sylvie Noël. Les candidats enchaînent les meetings ce dimanche. C'est le sprint final. Kamala Harris est dans le Michigan. Donald Trump dans les États de l'Est. En France, une manifestation, là, cet après-midi à Paris, organisée par des collectifs Kanak de Nouvelle-Calédonie et des militants du mouvement contre la vie chère de Martinique, qui participent notamment le leader du RPRAC à l'origine des mobilisations de ces dernières semaines, Rodrigue Petitot, qui réclame une rencontre avec le ministre des Outre-mer. À Bercy, au Masters 1000 de tennis, pendant ce temps-là, la salle est comble pour la demi-finale qui se joue là en ce moment. Et avec cette belle affiche, l'Allemand Alexander Zverev, le numéro 3 mondial face au Français Hugo Humbert. Éric Mamrut, vous y êtes, avantage Zverev.
Effectivement, net avantage à l'Allemand. Match à sens unique pour l'instant, finale à sens unique entre le numéro 3 mondial, vous le disiez, et Hugo Humbert, qui voudrait bien devenir le 4e français à inscrire son nom palmarès de ce Masters 1000 parisien créé en 1986, épreuve qui va quitter ce soir cette aréna mythique de Paris-Bercy pour s'exiler dans la banlieue ouest à La Défense. Et c'est sûr que le public parisien aimerait bien avoir un vainqueur français pour clore cette page, mais on n'en prend pas le chemin puisque Alexander Zverev mène très très largement 6-2 dans la première manche. L'Allemand a imposé toute sa cadence, son intensité énorme, sa longueur de balle. Il a totalement étouffé Hugo Humbert qui a tout tenté mais qui a dû céder, peut-être un petit peu émoussé par ses combats précédents de la semaine. Il est sorti longuement à la fin de cette première manche pour se remettre la tête à l'endroit, mais le scénario se répète dans cette deuxième manche. Les jeux défilent. 3-0 pour Alexander Zverev, qui est au service maintenant pour creuser encore un peu plus l'écart. On en est à même pas une heure de jeu. Le public soutient son chouchou, mais il sent bien que ça va être compliqué aujourd'hui.
À tout à l'heure pour la suite de cette finale, donc cette dernière finale dans la salle mythique de Bercy. Tout de suite en salle majeure avec Yasmine Chouaki.